explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Il est sans conteste le plus aventurier de nos chanteurs, à moins que ce ne soit l'inverse. Dans ses albums aux allures de carnet de voyage, résonnent et s'entremêlent salsa, reggae, tango et autres bossa nova. Depuis plus de 40 ans, Bernard Lavilliers nous chante les fracas du monde sur tous les rythmes et nous ouvre grand et loin les oreilles. Le chanteur baroudeur a sillonné en tous sens l'Amérique du Sud et tout particulièrement le Brésil. Mais sa curiosité et son envie d'aller voir ailleurs l'ont mené sur tous les continents. Pas franchement touriste dans l'âme, il le dit volontiers, il lui faut des faubourgs dangereux, des routes perdues et des bars disgraciés pour en faire des chansons. Pour son dernier album, intitulé « Sous un soleil énorme », Bernard Lavilliers est allé chercher l'inspiration en Argentine. Dans ce nouvel opus, il raconte Buenos Aires et ses habitants. Il livre aussi ses réflexions sur l'état de la planète et revient sur le début du voyage, ce moment où il a choisi d'ouvrir ses ailes pour quitter sa ville natale, Saint-Étienne, et partir à l'aventure. Depuis ce premier grand départ, des aventures, il en a vécu. Nous allons en avoir un petit aperçu cet après-midi, de l'Argentine à Haïti, en passant par le Brésil ou encore la Jamaïque. Bernard Lavilliers nous emmène à travers le monde, à la source de ses inspirations. Claire Tesser a préparé cette émission, Stéphanie Texier la réalise, avec à la technique aujourd'hui, Raphaël Rousseau. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Buenos Aires, c'est un port qui est formé par les souvenirs, par les vécus de tous ces gens, de tous ces immigrants qui ont arrivé ici. On dit que l'homme descend des singes et nous, les Argentins, nous descendons des bateaux.
Un Argentin, c'est un Italien qui parle espagnol, qui s'habille comme un Anglais et qui se prend par un Français. Parce qu'on est un mélange, on a hérité des Italiens la gestualité, on parle en haute voix, on bouge beaucoup, on fait des blagues, etc.
Je marche seul dans Buenos Aires, personne ne demande qui je suis. Dans cette ville, dos à la mer, qui vibre encore de l'Italie.
Bonjour Bernard Lavilliers.
Bonjour.
Nous commençons notre voyage avec vous à Buenos Aires, en Argentine. Cette chanson que l'on entend, hein, le piéton de Buenos Aires, extraite de votre dernier album, Sous un soleil énorme. Vous l'avez écrite là-bas, hein, vous avez séjourné plusieurs mois en Argentine.
Moi, je suis resté trois mois et demi en Argentine et j'ai commencé par marcher comme le piéton de Paris. Hein.
Ouais.
Le piéton de Buenos Aires, pour connaître une ville, c'est mieux de marcher à la vitesse de l'homme. Parce qu'on remarque tout, ouais. Et on voit quand on change de quartier. Enfin bon, on peut marcher des kilomètres, c'est une ville très vaste. Et j'ai écrit ça peut-être une semaine après avoir sillonné la ville jusqu'au Barrio 31, qui est un quartier très dangereux, ouais. Une sorte de favela, si vous voulez, où il y avait des rappeurs qui m'intéressaient. Donc j'ai tellement l'habitude de naviguer là-dedans qu'on ne prend jamais ni pour un bourgeois qui va se faire racketter, ni pour un flic.
Ouais.
C'est des deux choses, il faut paraître un peu fluide, ouais. Je sais pas quoi. Enfin,
l'air
abstrait.
D'être passe-partout un peu.
L'air d'avoir l'habitude. Surtout. De ne pas regarder les gens dans les yeux, pas ouais. Savoir ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas tout de suite, ça m'intéressera plus tard, mais pas à ce moment-là. Donc j'ai commencé par écrire « Je marche seul dans Buenos Aires ». C'est-à-dire que je marche seul dans une ville inconnue, surveillée par personne.
Ouais.
Voilà, j'avais écrit ça dans une chanson. Et j'adore partir pour écrire, mais partir pour être à mon rythme et me noyer dans la foule et voir les souterrains que j'ai envie de voir, mais sans aucune... Sans aucun compagnon, personne, que dalle, que moi.
Et alors, Buenos Aires, que vous avez arpenté en tous sens, à pied, décrivez-nous cette ville.
C'est une ville européenne, à la finale. Hein. Ils disent des choses tout à fait justes. Je la connaissais, cette histoire très humoristique d'un Italien qui parle espagnol, qui s'habille comme un Anglais et qui se prend pour un Français. C'est une vieille blague sur les Argentins. C'était une blague tout à fait exacte, d'ailleurs, hein, ouais. Je trouve. Parce qu'il y avait dans cette ville un côté Madrid, les immeubles, l'Italie, Paris et New York, je dirais à peu près. Voilà, les grandes avenues new-yorkaises qui se coupent en angle droit. Mmh. Mais dans beaucoup de villes d'Amérique latine, c'est comme ça. Et il y a des transversales singulières qui vont dans d'autres quartiers. Il n'y a pas que des angles droits, justement. Donc, les transversales pavées, rue du Chili, par exemple. Et je l'ai pris la rue du Chili, je suis arrivé devant un truc qui s'appelait la Poésie. Je me suis dit, tiens, bar, restaurant, ouvert 24 heures sur 24, cuisine italienne. Voilà.
Vous en avez fait votre QG.
Ça commence bien.
Ouais.
Non, j'étais là tous les jours.
C'est ça.
Je ressortais pour aller voir ce qu'il y avait dans les théâtres multiples, des cafés-théâtres aussi, et des clubs de jazz ou de rock'n'roll argentin. Le rock'n'roll argentin est une musique un peu spéciale que les Argentins adorent, normalement, ça dépend.
Ouais, vous avez pas l'air convaincu par le rock'n'roll argentin, à voir votre air.
Non, c'est un peu d'ironie, simplement. C'est un peu... C'est-à-dire qu'il y a des tribus à Buenos Aires qui sont restées habillées comme les Rolling Stones ou Kiss, vous voyez.
Ouais.
Des tribus, des quartiers entiers.
Ouais.
Donc je me dis, bon, est-ce que Kiss, ça me passionne? Pas vraiment, mais c'est pas grave.
Vous éprouvez ce besoin d'aller voir ailleurs depuis très longtemps. Hein. Vous avez même commencé à voyager avant de vouloir devenir chanteur-compositeur. Votre premier grand voyage, le voyage initiatique, c'était pour le Brésil.
Ouais, exactement.
À 19 ans. Un peu comme l'avait fait avant vous un écrivain voyageur que vous appréciez, hein, Bernard Lavilliers, c'est Blaise Cendrars. Lui, c'est à 17 ans qu'il est parti, qu'il a quitté sa Suisse natale pour son premier grand voyage en Russie. Le voici, Blaise Cendrars, en 1950, revenant sur ses premiers voyages à travers le monde à l'aube du XXe siècle.
Il y a 15 ans, j'étais en Chine. Alors, vous voyez que j'avais su user et abuser de la liberté qui m'était donnée par tous ces moyens de transport admirables, et qui coûtaient rien, on foutait le camp, on voyageait sans papier, il n'y avait pas besoin de passeport. Les États ne s'en occupaient pas, ils nous laissaient filer, ils nous laissaient passer. Je veux dire, on n'avait pas de passeport, il n'y avait pas de machin, il n'y avait pas de visa, et personne ne s'occupait de toi. J'étais bijoutier, j'étais ceci, j'étais cela, j'étais voleur de chevaux, j'ai fait du cinéma. J'ai accompagné les immigrants de Lituanie à New York, je me suis bagarré avec des Chinois, avec des Allemands, avec des Polonais, avec des Sud-Américains. J'ai crevé la faim d'en accueillir des régimes de bananes à des plantations de Panama. Je suis revenu avec la fièvre, je suis revenu avec la fièvre du fric, quand on n'y comprenait plus rien, comprenez-vous ? C'était ça la vie.
L'écrivain Blaise Cendrars, en 1950, je vous vois sourire et acquiescer, Bernard Lavilliers. Sa façon de voyager, de bourlinguer, hein, comme il le disait, elle se rapproche de la vôtre.
Tout à fait, mais même à l'époque, je crois qu'il fallait un passeport malgré
ouais,
tout.
Bah, bon,
enfin, on est dans l'onirisme de Blaise Cendrars, c'est-à-dire, c'est pas ce que disait Aragon, le mentir vrai, mais disons que il a un petit côté, même s'il est suisse marseillais, il améliore. Donc, mais à part ça, je suis sûr qu'il y a des tas de choses vraies, puisque quand j'étais au Brésil, et je lisais Blaise Cendrars, je suis persuadé qu'il y est allé, et là où il dit, parce que c'est extrêmement bien décrit, et il n'y avait pas tellement de vidéoclips à l'époque, donc il fallait y aller quand même, même si on lisait des magnifiques bouquins de géographie, souvent peints à la main par des illustrateurs extraordinaires, comme Djibouti avec son palmier en zinc. Enfin. Donc là, à mon avis, il est allé au Brésil, il a pris ce que je n'ai jamais fait des paquebots de l'époque, qui étaient des voyages de 3 semaines, un mois et demi, hein, pour aller jusqu'au Vietnam. Donc, je pense qu'il a peut-être plus pris le bateau qu'il a voyagé sur les routes. Parce qu'il décrit tellement souvent, il était en général en première classe, hein, quand même, et il décrit tellement souvent l'ambiance des paquebots dont nous rêvons tous. Évidemment qu'on ne va pas aller faire des croisières Costa quand on a lu Blaise Cendrars, n'est-ce pas? Ouais.
Alors vous aussi, vous êtes parti vers ce Brésil pour ce premier voyage, grand voyage initiatique. Il vous a fallu quitter votre Saint-Étienne. Vous le racontez dans une très belle chanson de votre dernier album. La chanson s'intitule « Je tiens d'elle ». On l'écoute, ce sera notre point de départ à nous aussi, avant d'ouvrir nos ailes avec vous, le temps d'un bivouac à travers le monde, du Brésil à Haïti, en passant par la Jamaïque, avec le chanteur baroudeur Bernard Lavilliers, cet après-midi sur France Inter.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noir, je suis belle, je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant, brûlant comme une torche
n'éteint pas le vent, j'ai franchi l'océan.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales.
Mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne. Plus brave que belle, plus frère que fier, plus fier que celle qui aura souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Première guitare, ma petite espagnole, qui ressemble à un voilier. Le manche a tant souffert sous mes doigts malhabiles, mes rires, mes colères. C'est ma mère qui me l'a offert. Elle m'attend quelque part. Elle m'attend quelque part.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle. Que fier, plus fier que celle qui n'ont pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien, partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain,
ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Je tiens d'elle, extraite de votre dernier album Bernard Lavilliers, Sous un soleil énorme. C'est une chanson que vous avez faite avec le duo Terre Noire, eux aussi originaires de Saint-Étienne. Ils vous ont poussé à vous livrer sur cette chanson, Bernard.
Oui, évidemment, absolument. Donc il y a une génération pour être le grand-père qui confronte son Saint-Étienne avec le mien. Mais ça se confronte pas réellement parce qu'ils ont une sorte de... Leur grand-père était un Espagnol immigré qui était mineur de fond, un peu de la même famille que moi, on va dire ça. Et ils ont quelque chose qui les attache, alors qui peut-être de temps en temps ils en ont marre, mais ils sont très fiers des Stéphanois. Moi j'avais fait un album entier, J'avais écrit une chanson un peu rude, d'ailleurs sur Saint-Étienne. Pas vraiment rude d'ailleurs, plutôt poétique, je veux dire, par là. Et je remploie le terme calaminé d'ailleurs, parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est que la calamine, c'est ce qu'il y a sur l'acier quand ça rouille, et ça reste dans les ridules de la main, ce qui fait que vous pouvez pas vous faire passer pour un pianiste classique. Quand vous draguez une jolie blonde vers 20h. Donc là, pour le coup, je me livre, oui, mais alors je trouve pas ça ridicule, puisqu'au fond, j'ai jamais dit que ma mère m'a offert ma première guitare. Ouais. Ben, je le dis sur le tard, Et c'est vrai. Et effectivement, elle est devenue une sorte de voilier, parce que le manche a plié, bien sûr. Ouais. La guitare, j'aurais pu mettre une voile après. Ouais. Mais j'ai appris à jouer de la guitare à Saint-Étienne. Oui.
On entend votre attachement à cette ville et le besoin impérieux de partir. Il fallait que je parte, ouvrir mes ailes, partir loin d'elle. C'était un besoin vital, vraiment, à ce moment-là, à ses 19 ans. Vous étouffiez à Saint-Étienne, malgré tout l'amour que vous lui portiez à cette ville.
Ouais, mais ça change rien, j'aime toujours. Fallait que je parte, c'est-à-dire, il y en a plein qui voulaient partir, mais personne n'est parti, il n'y a que moi. Donc, je me sentais bien que c'était une sorte de... couper le cordon ombilical, quelque part, aussi. Mais j'étais tourneur sur métaux, qualifié de très haut niveau, donc je pouvais bouffer partout, où on avait besoin de gens qualifiés de cette usine où j'étais avec mon père, la MAS, la manufacture d'armes nationales, donc qui fabrique des armes de guerre. Donc j'étais un grand spécialiste, donc j'ai pu travailler partout où je voulais travailler. Donc c'est, disons, à la limite, il y avait que l'histoire de se mettre à l'épreuve pour savoir si on allait peut-être pouvoir devenir un vrai aventurier et déjà tester si on pouvait se démerder partout, être un vrai voyageur. Voilà.
C'est ça. En fait, vous partez avec l'idée de devenir un aventurier plus que de devenir un chanteur à cette époque-là, à 19 ans.
Ah oui, non, ça n'a rien à voir du tout.
Ouais.
Ça m'est arrivé bien plus tard. Ça.
Ouais. L'aspiration de départ, c'est l'aventure.
Ah oui.
Vous vouliez être un aventurier. Qu'est-ce que vous avez fait pendant un an? Vous êtes parti donc à 19 ans au Brésil pour un an.
Ouais.
Quelle sensation vous gardez de cette année passée au Brésil?
Je suis passé de ville en ville parce qu'au fond, j'ai réparé des camions. Enfin, j'ai fait mon métier d'ouvrier. À droite, à gauche, monté à Salvador da Bahia, un peu plus haut. Et après, à Belém de Pará, j'ai trouvé un mec qui avait besoin de mécanicien, en réalité. Ouais. Je m'étais adapté, j'étais plus un mécanicien de précision, j'étais devenu un peu un Africain qui répare les Ford avec des pièces de Mercedes et d'autres pièces de Renault, admettons.
Ouais.
Donc, mais j'ai fait ça. En réalité, j'ai fait ça. J'ai appris la guitare brésilienne.
Oui,
avec...
quand même. Vous y allez aussi pour la musique au Brésil.
Ouais, mais moi, je savais un peu jouer de la guitare. Donc, quand les mecs jouaient de la guitare, les camionneurs, par exemple, et qui chantait des sambas, j'ai pigé que d'abord c'était un peuple musical, s'il y a bien un peuple musical, c'est bien les Brésiliens, et qui jouaient tous à l'instrument plus ou moins, et tous chantaient plus ou moins juste, des trucs magnifiques, des chansons populaires, mais splendides. Soit George Gilberto, ça pouvait être Tom Jobim, ça pouvait être aussi le très célèbre de l'époque, c'était George Ben, chanson de carnaval, mais très belle. Donc là, j'ai appris ce tempo de la samba, et un peu plus sophistiqué, la bossa nova, qui se joue pas du tout. C'est une samba plus lente, plus sophistiquée, avec des accords de jazz un peu mélangés. Mais j'ai appris à me percussionner la guitare en même temps. C'est-à-dire que j'ai fait deux voyages en même temps, en un seul.
Ouais. La salsa aussi, vous vous y mettez à cette époque?
Ah non. La salsa, ça vient de Cuba, ça n'a rien à voir. C'est la musique latine, mais ça n'a rien à voir.
Ah, bah alors c'est ça. C'est là où il faut refaire toute mon éducation.
Non, ça n'a rien à voir. C'est pas le même tempo. C'est la bossa nova, c'est con con con. Et là, ça rac, patapa, patapa, para. Vous voyez, c'est le premier temps est en l'air. Alors dans les autres aussi, mais c'est complètement différent dans la structure. Il y a des congas qu'il n'y en a pas dans le Brésil. Au Brésil, il y a des petites percussions surtout et des sourdes, des triangles, des maracas aussi. Des panderos, on peut faire toute une batterie avec un seul tambour, comme ça. Ouais. Mais les Cubains, c'est beaucoup plus structuré. C'est pas pareil, la musique de rue à Cuba, c'est le son. Voilà, la musique de rue, c'est le pagode. Voilà, s'il y a des gens que ça intéresse...
Bah c'est passionnant, mais alors, sur la salsa, en fait, j'ai essayé de vous emmener sur la salsa, parce que, évidemment, vous êtes...
Oui, c'est latin, mais c'est pas pareil. C'est urbain, parce que c'est New Yorker. Il y a du jazz dans la salsa, il y a du funk...
Ouais.
Évidemment qu'il y a de l'Afrique et du latino-américain, mais il y a New York. Hein,
et c'est ça. Mais justement, c'est à New York que je voudrais vous emmener avec le Spanish Orchestra. C'était pour l'enregistrement de la chanson Cause Perdue. On est bien sûr de la salsa, là.
Totalement. C'est les neveux de Ray Barreto, tous ces gens-là.
Ça va, je dis pas trop de bêtises.
Ah ouais.
Alors, c'était il y a une douzaine d'années. Vous êtes en répétition avec deux chanteurs réputés de la salsa new-yorkaise, chargés de faire les chœurs sur cette chanson Cause Perdue.
Rien de vous, hein. Donnez-les, portez-les jusqu'au bout.
Portez-les jusqu'au bout.
Bien, portez-les jusqu'au bout.
Portez-les jusqu'au bout.
Guerroyer.
Non, guerroyer.
Guerroyer.
Yeah.
Reto. It's like Reto.
Guerroyer. So I'm going to put the yarkers here at the top. Guerroyer.
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 Les moulins.
I think that's what it is. I get it.
Vous idez vos visages, guerroyer. Les moulins, les nuages.
La solution est en tus manos. Pero tienen que seguir. Echa pa'lante, mi hermano. Tu tienes derecho.
Alors, après avoir appris phonétiquement les paroles en français, les chœurs improvisent dans leur langue, hein, cette fois-là. C'est ce qu'on entend.
C'est dans la tradition de la salsa. Normalement, c'était à moi, mais je leur ai dit non. Moi, je peux pas improviser en français, ça va être ridicule.
Ouais.
Je parle pas assez bien l'espagnol. Et toi, qui es un ténor, un des meilleurs chanteurs du moment à New York, tu vas me, s'il te plaît. Il m'a dit, mais je peux pas me permettre. J'ai dit, alors, t'as ma permission. Improvise. N'oublie pas que je parle de la lutte des classes d'une façon plus ou moins cachée.
Ouais.
Mais c'est quand même ça dont je parle.
Ouais. Mais c'est là où on voit tout l'intérêt d'aller justement les enregistrer loin, ces chansons, parce que, alors déjà vous, vous mettez votre voix grave sur de la salsa, ça oui. Si j'ai bien compris, c'est plutôt rare en matière
c'est
de...
C'est les ténors la plupart du temps, de salsa. Même plus, oui.
Et puis eux, ils viennent improviser avec leurs mots.
Mais parce que je pense que je suis un bon mec, même si je fais peur parfois, et qu'ils m'ont trouvé sympa. Et puis je raconte pas n'importe quoi, je l'aurais traduit ouais. En anglais ou même en espagnol, mais c'est pas de l'espagnol poétique, moi je parle un truc de la rue. Hein. Mm-hmm. Donc je parle portoñol d'ailleurs, un mélange entre le brésilien et le colombien, ouais. Si vous voulez.
Et avec ça on passe partout ?
Oh, tout le monde comprend, hein, c'est ouais. Pas de problème. Après, si vous voulez lire Juan Pessoa, c'est pas pareil. Ou même García Márquez, non. Mais bon, quoique García Márquez parle aussi beaucoup le langage de la rue, un peu comme Jorge Amado. Ouais. Non mais là, ils étaient à l'aise avec moi parce qu'au fond, je leur disais, vous allez articuler comme ça, mais ça veut dire quoi ? Mais j'ai dit, voilà, guerroyer. Je lui ai dit, t'as lu ou pas, Don Quichotte ? Le mec qui se bat contre les moulins à vent. Ouais. Et bien souvent, nous, dans les manifestations et dans les syndicats, on s'est battu ouais. Contre des moulins à vent. Ouais. Et c'est pas pour autant qu'on a laissé tomber.
Mettre ces paroles combatives assez profondes sur une salsa, c'est des choses que vous aimez bien faire. Hein. Vous avez aussi fait ce choix d'aborder un sujet qui vous tenait à cœur, une réalité sociale difficile, sur des rythmes capverdiens avec les mains d'or.
Ah, complètement. C'est-à-dire que les mains d'or, alors moi, on va restituer les choses, en tout cas en France, une époque, dans les années 60, 70 surtout, déjà à Saint-Étienne et ensuite en Lorraine et dans le Nord, les grands, où il y avait 10 ou 15 000 ouvriers, les aciéries, avec les laminoirs et les usines qui allaient avec, ont été délocalisés, comme on dit maintenant. Donc, ils ont vendu les bijoux de famille pour les installer en Inde. Très bien. Donc, petit à petit, avec des bonnes paroles, beautiful days, des politiques, les ouvriers se sont fait enfumer, n'ont pas aimé du tout. Donc, depuis les années 80, je manifeste avec eux. Et alors, quand j'écris les mains d'or, on savait bien que la partie était perdue. Et j'ai écrit ça pour leur remonter le moral, en réalité, et situer ces mecs, les mains d'or. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. Ouais.
Mais sur le papier, évidemment, elle est superbe, cette chanson, mais sur le papier, c'était presque un peu casse-gueule. Aller raconter la grisaille des usines qui ferment, les ouvriers qui restent sur le carreau, sur une musique pleine de soleil.
Eh ben justement, ça serait un peu too much de faire du hard rock avec un texte comme ça, franchement. Hein? Non, je faisais ça sur un texte chaleureux, sensuel même, on peut danser dessus, mais ça raconte quand même la vraie chose.
Un grand soleil noir tourne sur la vallée, cheminée muette, portail verrouillé, wagons immobiles, tours abandonnées. De flammes orange dans le ciel mouillé, on dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore. Forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or.
Les mains d'or, sorties en 2001. Votre père, ouvrier communiste, était encore en vie à cette date, Bernard Lavilliers ?
Bien sûr, oui.
Il l'a entendu, cette chanson ? Qu'en a-t-il pensé ?
T'es très fier. En tout cas, mon père a été très fier de cette chanson. Des autres sans doute aussi, mais celle-là, elle est extrêmement particulière. On l'a tous vécu, mon père et moi, et tous les compagnons de Lorraine et tous les autres qui se sont fait jeter de leur usine au bout de 40 ans de bons et loyaux services, ou 30 ans, c'est-à-dire vers 50 ans. C'est dangereux, c'est méchant. Et ils ont tous entendu cette chanson, mon père évidemment, bien sûr.
Vous utilisez aussi parfois la musique locale pour parler de la réalité du pays dans lequel vous vous trouvez. Je pense au reggae pour parler du ghetto, par exemple.
Vous êtes ça a l'air joyeux d'ailleurs. Hein
ouais. Vous êtes allé en Jamaïque pour enregistrer ces chansons.
Pour apprendre la musique jamaïcaine, je suis allé en Jamaïque assez longtemps, en 79. Donc je suis arrivé à Kingston, c'était un peu la guerre civile. Donc bon, le mec des hôtels, il est, vous savez, il faut parler là, hein, faut rester dans le quartier business. Bon, je dis ouais, bien sûr. Et petit à petit, moi j'étais musicien, donc au fond, je voulais savoir comment ils faisaient leur fameuse conque, comment ils faisaient leur musique qui a l'air si simple, qui est pas si simple que ça du tout d'ailleurs, parce que les gens qui s'attaquent au reggae et qui connaissent pas du tout, eh ben non, c'est pas du reggae pour le coup. Je sais pas du tout ce que c'est, mais là je suis tombé avec des bons mecs en plus, donc j'ai écrit sur place, comme je fais toujours, la veille du studio, parce qu'il fallait me remplir d'un tas d'images et de discours que j'avais après avec les mecs du ghetto, parce que finalement, grâce à des musiciens, j'étais quand même allé voir leurs parents, et moi, j'étais pas mal vu, moi j'étais musicien. J'allais faire travailler tout le monde et donner des frics. Donc, c'est bien ça aussi, faut faire travailler. Hein. Donc j'avais pigé ce que c'était que le reggae, et d'autre part j'avais rencontré Bob Marley entre-temps, qui était Hop Road, il est passé par là. Il avait déjà le crabe, je pense, mais il le disait à personne, hein. 79. Et il parlait pas beaucoup, Bob Marley. Donc lui, il m'avait dit d'aller enregistrer dans un petit studio et de prendre un groupe qui s'appelait Man of the Ghetto. Voilà, ben après, une fois qu'il m'a dit ça, j'ai fait ce qu'il a dit. Hein. C'est et pas moi le patron.
Et vous y êtes retourné régulièrement en Jamaïque pour créer de nouvelles chansons et puis pour en réenregistrer de plus anciennes. Aperçu de l'ambiance sur place, c'était il y a une vingtaine d'années à Kingston, la capitale de la Jamaïque.
Jusque-là, le reggae viendra te réveiller, man. Aïe, aïe, aïe.
Alors tu vois, South Gong, c'est là où j'ai enregistré Melody Tempo Harmony en 95 avec Jimmy Cliff et une nouvelle version de Stan the Ghetto, un peu ragamuffin comme ça. Et après je suis revenu l'année dernière pour faire Jamaica.
Parce que moi, ils sont toujours 50 quand j'enregistre. Et des fois, je mets le casque parce que j'entends plus rien. Et je leur dis, oh, est-ce qu'on peut faire de la musique? Ça vous dérange pas?
Melody, tempo, harmony. I do it for me.
Ah, il y a l'air d'avoir une bonne ambiance. Ça fait partie de ce que vous allez chercher quand vous partez là-bas.
Ouais, mais c'est pas possible d'être en studio seul comme on est là. Ouais. Parce qu'en plus, je suis le blanc qui chante grave, qui a connu Bob et qui connaît bien Rita, sa femme. Ouais. Donc je connais tous les musiciens et tous les voyous de la rue. Donc quand je suis là au bout d'un moment, ils viennent tous vers 17h, 16h30 avec leurs enfants dans la cabine. Alors souvent on joue dans la cabine. Alors moi des fois je vais de l'autre côté parce que je m'entends plus. Donc là pour le coup, mais je peux pas les empêcher parce que comment on peut empêcher à des Jamaïcains, souvent fils de musiciens ou même petits voleurs, ils volent pas là. Hein, voir cette espèce de phénomène qu'est ce blanc qu'on connaît maintenant et qui fait du reggae avec les meilleurs musiciens quand même. Je signale que Sly and Robbie Shakespeare est mort là, le bassiste de Bob Marley. Donc Sly le batteur il doit être bien seul. Moi, j'ai connu tous ces mecs-là, les Frères Breaker et tout ça. Donc là, pour le coup, quand je suis arrivé en Jamaïque, ils faisaient déjà plus de reggae. En réalité, ils étaient passés au dub et au dancehall. Donc le reggae, je l'ai ravivé, ils me faisaient ça pour me faire plaisir, mais ils faisaient tellement bien, franchement.
Et vous l'avez aussi popularisé en France. Alors vous n'êtes pas le seul, mais vous avez joué les passeurs.
Il y a Gainsbourg et moi, franchement, qui était là-bas sur place. Alors Gainsbourg, il avait écrit les chansons avant. Et il en a fait tout un album. Moi, j'en ai mis que deux dans Gringo parce que je voulais pas faire un album de reggae en même temps.
Allez, si on écoutait Bob Marley, vous l'avez rencontré, notre programmatrice musicale Valentine Chédebois, le sait, elle a voulu vous faire plaisir, Bernard Lavillier, avec Three Little Birds.
Sim.
Et pendant que Bob Marley chante, je prends un cours de musique avec vous, Bernard Lavilliers, parce que vous dites, on entend bien l'origine, la source
du reggae. Oui, le mento. C'est-à-dire que tout le monde croit que ça vient de rhythm and blues, pas du tout. Ça vient du mento qui était joué au banjo avec, comment on appelait ça, une rumba box avec des grosses lames. Comme ça. Donc c'est trois accords, parce que la rumba box fait que des... Donc des basses et une clarinette parfois, avec un chanteur évidemment, comme Stanley Bickford, qui chantait très très aigu. C'est musique de village, qui est devenue petit à petit le rocksteady, ensuite le reggae et le ska. Donc ça, c'est vraiment Caraïbe, l'origine. Ouais. C'est pas un rhythm and blues.
Et quel souvenir vous gardez de cette rencontre avec Bob Marley?
Ah, c'est quand même un drôle de truc, hein. Il écoutait tout le temps la même chanson. J'avais amené un album, j'avais fait Pouvoir, mais je me suis dit, bon, je vais pas lui faire écouter un truc aussi compliqué. Donc j'avais amené 15e Ronde, et il écoutait sans arrêt. Je me souviens d'une fille. Je sais pas pourquoi. Il adorait ça. Et je l'ai traduit quand même. Ah, il me dit, c'est un blues. Exactement, c'est vrai. C'est un blues en mineur. Hein. Au rire cassé. Voilà, histoire. Bon. Et après, Bob Marley, c'était un sportif, très sportif, qui lui était très rigoureux sur son régime, je dirais. Il était très rigoureux dans tous les sens, d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, on le voit tout le temps tirer sur... Ouais. C'est faux. C'était un mec très rigoureux. Ah, peut-être qu'il fumait de l'herbe, mais en attendant, c'était un végétarien, un vrai rasta. C'était un mec, comment on peut dire ça? C'est pas un mystique vraiment, mais quelqu'un qui avait... un spirituel, je dirais un mec qui a l'esprit... Mais faut pas croire que mystique, je veux bien, mais c'est pas uniquement ça qu'a chez Marley. Il connaît très bien sa ville et la vie, en général, lui, hein, très tôt.
Et vous, en allant dès le printemps 79 en Jamaïque, vous êtes aussi frotté à la vie en Jamaïque, parce qu'à ce moment-là, c'était des émeutes, la guerre civile.
C'est-à-dire qu'il y avait, en pleine élection de président Mandela, une histoire entre deux ghettos. L'un s'appelait Tivoli Garden, était pro-américain, et Trenchant, qui était pro-cubain, on va dire ça, en gros. Ouais. Tous les deux vendaient de la cam, évidemment, et des armes. Donc après, ces deux ghettos ont toujours été en guerre. Ouais. Idéologique, je suis pas si sûr. Mais en tout cas, il y avait des flics pro-américains d'un côté, et d'autres qui étaient pro-cubains, je pense plutôt.
Alors en voyage, vous semblez traverser les situations difficiles avec beaucoup de sérénité, hein, Bernard Lavilliers. C'est en tout cas ce que disent vos compagnons de route. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux, le percussionniste Dominique Mahut.
Oh bah il est directement chez lui, n'importe où en fait. Par exemple, on était au Nicaragua, c'est peut-être presque comme s'il revenait chez lui. C'est ça qui est vraiment très très particulier chez lui, c'est sa propension à trouver sa place dans n'importe quelle situation, quoi. Des fois vraiment très extrême, quoi, vraiment. Et en fait, sur le coup, on n'en a pas conscience, c'est parce que justement, parce qu'il est... extrêmement tranquille, mais après coup, on se dit, mais on est complètement fou, on aurait pu être, ça aurait pu mal se passer. Mais sur le moment, il n'y a aucun problème, quoi. Aucun. Il sait très très vite, mais tout de suite, qui il a en face de lui, quoi. Tout en ne s'interdisant jamais de dire ce qu'il a envie de dire, en plus. C'est ça qui est étrange. Et ça passe, quoi.
Le percussionniste Dominique Mahut, qui a eu l'occasion de vous accompagner en voyage, lors de tournées, j'imagine.
Autant... Non, on n'était pas en tournée, on était en... Je faisais un reportage à l'époque où Bébé Doc s'est sauvé en France, donc en Haïti. C'était très chaud aussi quand même. Et après au Nicaragua, à l'époque des Sandinistes avec les contrats, vous voyez. Ouais.
Donc là aussi, c'est un petit peu la révolution à ce moment-là, c'est ça juste...
On va dire que c'est plutôt plus qu'un petit peu. Mais c'est la fin de la révolution à la fois. Il y a Reagan, vous voyez. Il y a Tête d'Ananas là qui est au Panama, qui trafique la cam avec le Nicaragua, mais on le sait pas officiellement. Donc lui, il amène la bouffée au Nicaragua qui est blocus, hein, tout autour. Enfin, tout ça, c'est l'Amérique centrale. Ça n'a rien à voir avec l'Amérique du Sud, ni avec rien d'autre. L'Amérique centrale, c'est comme Chinatown, c'est à part.
Ouais. Il avait l'air de dire que rétrospectivement, il s'est trouvé avec vous dans des situations un peu critiques qui auraient pu mal tourner. Vous voyez à quoi il fait allusion?
Oh, certainement, oui.
Ah, c'est oui, quoi oui. De quoi il parle Qu'il parle... soit racontable sur France Inter.
Si, c'est racontable, mais... Disons qu'un jour, quand on est arrivé au Nicaragua, à Managua, le lendemain... J'ai dit, bon, je vais essayer de contacter le président Daniel Ortega. Mais bon, je connais pas, jamais vu. Et bon, donc, il fait, sur la place de la Révolution, Il y a une manifestation à la Fidel Castro avec le frère Humberto Ortega, avec des bottes luisantes, le ministre de la Culture qui a été très sympa, mais je connaissais pas. Et au bout d'un moment, je suis monté, moi, sur la scène. Et avec les Allemands de l'Est, parce qu'ils faisaient pas vraiment confiance aux Nicaraguayens pour le garder, le président, et j'aurais pu effectivement me faire tuer. Mais, parce que je suis un lucky man, j'arrive là, à côté du chanteur Luis Enrique Maria Godoy, je lui dis, je suis Bernard Lavillier, je viens interviewer le président du Nicaragua. Ouais. Pour lutter avec les sandinistes. Il me dit, ça tombe bien, voilà sa femme, Rosario. Et voilà.
Et c'est comme ça que vous êtes monté sur scène, vous avez rencontré la femme du président fraîchement élu.
Sans me faire tuer.
Sans vous faire tuer. Il y a ce côté un peu reporter quand vous allez sur le terrain, reporter occasionnel.
Oui, mais en plus, je l'ai vendu à NBC, moi. J'ai récupéré les cassettes il y a 2 jours. Ouais. Parce qu'on les avait perdues, comme il y a eu. Alors, je l'ai regardé, ça fait 4h30 l'interview quand même. Donc, je l'ai regardé, ce que j'ai bien pu lui raconter, président Ortega, justement.
Oui, vous vous souvenez plus vraiment de ce que vous vous êtes raconté?
Si, en gros, c'était en plein dans les contrastes. Moi, il a échangé cette interview contre un concert que je devais faire avec des Palestiniens, bon, sur un grand stade, justement pour fêter la renégociation avec les contrastes. Ouais. Voilà, donc j'ai fait ce concert avec Mahut. J'ai pris les musiciens de Luis Enrique Maria Godoy. Et d'ailleurs, c'est trop drôle, parce qu'il y a encore un truc que vous pouvez même pas imaginer. On part avec Mahut de Managua dans une direction. On se gourre, on arrive dans une ferme, il y a des musiciens qui s'entraînent. Moi, je crois que c'est eux. Et les mecs ont commencé à essayer de travailler avec moi. Ils savaient pas qui j'étais, ils savaient pas pourquoi. Et après, on s'est aperçu que c'était pas eux. On a dit, on est désolé, on est reparti.
Ah oui, vous n'avez pas trouvé la bonne troupe pour ce concert pour le président.
Non, on était à 40 km de Managua, dans une ferme. Mais je vous promets que c'est quand même assez... On est mort de rire pendant plusieurs jours, parce que ça, les mecs, ils nous regardaient comme ça. Ils se sont dit, mais c'est qui celui-là?
Alors, votre passion pour l'Amérique latine, l'Amérique centrale, ne vous a pas empêché d'aller voir ailleurs. Hein. Vous êtes allé plusieurs fois à Beyrouth, notamment, une ville qui a été meurtrie à de nombreuses reprises, encore récemment. Vous êtes sensible à l'histoire de cette ville et puis à l'histoire du Liban?
Voilà, complètement. Sensible à l'histoire du Liban, qui est l'interface, une sorte de... C'est le terrain de jeu favori des autres. Alors, ou des grandes puissances, ou des moyennes puissances du Moyen-Orient, ou du Proche-Orient. Ils se battent, ils se tuent là, bizarrement. Enfin, pas toujours, mais souvent. Et au moment où j'étais, moi, en 2006, normalement, les Syriens étaient partis, parce que les Syriens étaient là pour faire la police, ils occupaient. Alors, ils n'étaient plus là. Et donc, c'est pour cette raison que j'y suis allé, en me disant, bon, je rencontrerai peut-être des gens qui vont respirer un peu mieux. Alors, le problème des Béroutins, c'est que ils ne se livrent pas facilement. Ils sont plus intelligents que vous, donc ils parlent pas de la guerre. Faut surtout pas, là, c'est vraiment inélégant de parler de la guerre. Hein. C'est impossible. Alors après, ils vous baladent dans toute une histoire du Proche-Orient, entre les légendes, les contes, et les trucs, on commence à voir des trucs assez extraordinaires quand on les écoute.
Moitié charnel, moitié voilé, bien trop lointaine, beaucoup trop près. Les cloches sonnent, les minarets, voix monotone, les chapelets. Soleil rutilant des vitrines, désintégré par la machine. Samedi soir à Beyrouth, cicatrices fardées, mystérieuses et farouches, drôles et désespérées.
Donc, j'y suis resté un mois pour écrire Samedi soir à Beyrouth. J'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de femmes qui écrivent, des écrivaines, alors... comment on dit maintenant
écrivaine, c'est très bien.
Ça marche, ça?
Ah bah ouais, ça marche.
Et qui avait écrit des trucs extraordinaires. Quelques nouvelles d'une guerre ancienne, je vous le conseille. 10 femmes qui ont écrit sur la guerre sans en jamais en parler, qui est tout à fait libanais.
Vous Vous aimez suivre l'évolution des pays. Hein. Par exemple, à Beyrouth, vous y êtes allé à plusieurs reprises. Vous retournez régulièrement prendre des nouvelles des pays qui vous intéressent et qui sont dans des situations difficiles. Ça a été aussi le cas avec Haïti. Peu de temps après le terrible séisme de 2010, qui avait fait plus de 280 000 morts, 300 000 blessés, 1,3 million de sans-abri, ben vous vous étiez rendu en 2013 pour voir comment les habitants en général et les artistes en particulier arrivaient à se relever après la catastrophe. Vous aviez notamment interviewé l'écrivaine haïtienne Yannick Lahens, qui vous a parlé de ce traumatisme du séisme du 12 janvier 2010.
Ça a été des images d'apocalypse. Et c'est là où on se rend compte que nous traînons beaucoup de failles.
C'est ce que vous dites, cette énorme faille ne doit pas cacher les autres.
Absolument.
Faille de l'État.
De l'État,
De l'économie.
Absolument, des élites politiques, économiques, intellectuelles. Le 12 janvier met à nu tout ça.
Parlez-moi de ça, le silence après l'explosion. Vous enterrez vos morts avec des pleureuses, avec beaucoup de bruit, de la musique, et là rien.
Parce que, à mon avis, ça avait tellement dépassé le pensable. Que même les sentiments spontanés culturels à ce moment-là, les réflexes culturels étaient partis. Les gens vous disaient oui, j'ai perdu ma femme, 3 enfants, avec une certaine froideur, mais qui n'était pas une.
La personne, ils n'étaient pas là, quoi. Finalement.
Ils n'étaient pas là.
Extrait d'un documentaire que vous avez fait, Bernard Lavillier, en 2013, dans le souffle d'Haïti. Parfois, les chansons ne vous suffisent plus pour dire ce que vous avez envie de dire, pour raconter ce qui se passe ailleurs.
Souvent, même quand je chante, je prends la parole à la place. Là, j'ai pu interviewer une grande écrivaine qui, elle, m'a... La faille, quoi. Elle m'a dit, il n'y a pas que la faille du tremblement de terre, des plaques tectoniques, il y en a depuis fort longtemps, depuis Duvalier, depuis avant même la faille. Donc, ce qui était intéressant, c'est de lui dire que vous avez enterré vos morts, elle a dit, même pas. Ce qui est plutôt rare en Haïti, hein. Je veux dire, c'est des pays, quand même, où on enterre. Là, non. Donc, c'était, comme elle dit, c'était trop énorme, quoi. Il y a quelque chose de tellement violent. Alors, c'est bizarre, Haïti est un pays, alors, il y a des vieux Haïtiens qui me disent, allô Bernard, posez. Ils parlent comme ça. Ouais. Et ils me disent, Haïti, on a pas bien fait la cérémonie du bois caïman. Cérémonie vaudou pour attirer les forces du mal pour se débarrasser du colon blanc. Donc, elle n'a pas été assez maîtrisée. C'est pour cette raison qu'on a toujours des problèmes. Alors, c'est une version. Je sais pas si c'est la vraie, mais en tout cas.
Vous reprendriez un peu à votre compte cette phrase d'Albert Londres, célèbre phrase, aller porter la plume dans la plaie. Mmh. C'est un peu ce que vous faites avec évidemment vos chansons, mais aussi ces documentaires. Vous avez, il y a cette chanson, hein, comment va le monde, il est rouge sang. Vous avez parfois l'impression d'aller gratter là où ça va mal, là où c'est dur.
Ouais, ça m'intéresse. Mais ça vous fait des plaies à vous aussi, hein, faut pas rêver. Parce qu'on n'arrive pas à régler le problème. Une chanson, souvent, ça sert à rien. Donc, après, il y a des goguenards qui surveillent leur cholestérol, qui me disent, tu vois, ça fait 40 ans que tu chantes contre le capitalisme, ça n'a pas changé. Et ils sont contents.
Et pourquoi vous continuez?
Pour le principe.
Allez, un petit peu de musique pour adoucir tout ça. Je voudrais vous faire écouter un peu de Bossa Nova, mais une Bossa Nova revisitée. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant qu'on l'écoute sur la Bossa Nova pour les non-initiés? De quoi est-elle faite, cette musique?
Bossa Nova est une musique des années 60, qui est de la samba, créée à Rio de Janeiro par Tom Jobim, je dirais aussi Vinicius de Moraes en tant que poète, Toquinho comme guitariste, je dirais Jean Gilberto, évidemment. Enfin, quelques-uns comme ça, qui se chantent à voix douce et qui racontent des histoires d'amour, souvent, ou même des histoires terribles du quotidien. Mais comme il y avait la censure militaire, par exemple, Garota d'Ipanema, c'est la petite jeune fille très jolie qui marche, qui se balance comme ça, mais elle est triste. Et tout le monde comprend.
Alors la bossa nova que je vous propose d'écouter, elle est aussi un peu triste. Elle a été revisitée par Billie Eilish. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Billie Bossa Nova sur France Inter, dans le temps d'un bivouac.
Love when it comes without a warning, 'cause waiting for it gets so boring. Life can change in 20 seconds. your bearings. Some information's not for sharing. Use different names at hotel check-ins. It's hard to stop it once it starts. It starts. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna take a picture, make a movie with you that we'd have to hide. You better lock your phone. I'm sorry if it's torture though. I know it might be more of an obsession. You really make a strong impression. Nobody saw me in the lobby. Nobody saw me in your arms. I'm not sentimental, but there's something about the way you look tonight. Makes me wanna make them jealous. I'm the only one who does it how you like. You better lock your phone. And look at me when you're alone. Won't take a lot to get you going. I'm sorry if it's torture though.
Sanova, interprété par Billie Eilish. Alors Bernard Lavillier, qu'est-ce que vous en avez
c'est
pensé?
C'est l'esprit en tout cas. Il y a quelque chose de confidentiel, hein. Chante dans l'oreille quoi. Il y a ça, il y a... c'est élégant. C'est sûrement une chanson de jazz quelque part, il me semble. Et donc c'est l'esprit du renouveau, si on veut, de la bossa nova. Et là justement, la bossa nova est une chose très élégante qu'on chante pas fort, surtout. Au contraire de la samba. Hein. Mais c'est très beau ça.
Aquí un numerito en francés, salsa en francés grabado en Nueva York, a cargo de Bernardo Lavillier, la salsa en Z93.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Nous étions jeunes et larges des peaux. Bandit joyeux, insolent et drôle. On attendait que la mort nous frôle. On the road again, again. On the road again, again.
On the road again. Cette chanson date de 1988, Bernard Lavillier. Et depuis, vous n'avez jamais cessé de reprendre la route, encore et toujours. Est-ce que, toutefois, votre façon de voyager a changé depuis ces premiers voyages où vous étiez jeune et large d'épaule ?
Yes, bien sûr. Quoique, c'est-à-dire que comme moi je surveille pas mon cholestérol, comme les bourgeois qui me disent que ça sert à rien de chanter la révolution, n'est-ce pas ? Je voyage quand même un peu pareil, c'est-à-dire à l'instinct. Voilà. Et quand vous voyagez, c'est les... Moi je me fixe pas d'objectif. En réalité, j'ai écrit ce que je voulais. J'ai chanté dans des boîtes à Buenos Aires. J'ai chanté dans un théâtre avec des musiciens argentins. Tout ça en même temps. Et puis moi, je suis pour la rencontre. C'est-à-dire, si quelqu'un me dit « On va là, à peu près à 1000 kilomètres, tu vas voir, c'est très intéressant », j'y vais, bien sûr. Je veux dire, j'ai pas de plan établi et j'ai vraiment peur de personne. Il a raison, Mahut.
Ouais.
Je sais très bien à qui j'ai affaire, tout de suite.
Vous avez repris cette formule de Nicolas Bouvier, vous avez chanté « Pas moi qui ai fait les voyages, c'est exact. Les voyages qui m'ont fait ». Vous avez laissé de côté la deuxième partie de la phrase de Nicolas Bouvier, parce qu'il dit « Un voyage vous fait ou vous défait ». Est-ce que certains voyages vous ont défait, Bernard Lavillier ?
Ah, je crois pas, non. Oui, j'ai pris la première phrase, parce que c'est vrai, c'est pas moi qui ai fait les voyages, c'est les voyages qui m'ont fait. Alors, il est rigolo quand il dit « ou défait ». Là, je reconnais bien le Suisse. Donc, si vous voulez, même les voyages ratés, c'est les mieux en plus.
Mais jamais un voyage ne vous a fait douter, ne vous a déprimé, ne vous a laissé exsangue sur le bord de la route.
Ah non, au contraire. C'est le fait de rentrer qui me rend dépressif. Quoi. Mais non, non, même dans la pire merde, au contraire. Ouais. C'est intéressant parce qu'il faut de nouveau puiser dans son imagination et dans ses muscles, s'il faut, pour sortir de là.
Pourtant, dans votre dernier album, Sous un soleil énorme, il m'a semblé percevoir une certaine nostalgie, voire une inquiétude dans certaines de vos chansons.
Ah ouais? Mais dans quelles chansons, par exemple?
Je peux citer Voyage, vous parlez de fenêtres inquiètes sur la nuit.
Non mais ça c'est New York, c'est-à-dire que c'est une image. Hein. Il y a une heure à New York, en hiver, quand le ciel est clair, tout à coup, bon, ben, il fait nuit. Ouais. Et à ce moment-là, tous les immeubles de bureaux, c'est clair. Et c'est très intéressant cette ville à ce moment-là.
Il y a aussi, par ailleurs, la dernière chanson de l'album où clairement vous évoquez la mort, la fin, ce grand couloir sombre. On peut pas dire que...
Je suis pas mort en tout cas.
Non.
Bon, je décris le réveil de la mort parce que j'ai failli effectivement mourir.
Puis il y a celle-là dans laquelle je perçois un peu de nostalgie. Le cœur du monde.
Non, c'est pas de la nostalgie. C'est peut-être de la quiétude, oui.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort.
C'est vrai, non?
Celui des multitudes.
C'est vrai, mais on sent une inquiétude face au changement climatique. Il y a une atmosphère de fin du monde dans cette chanson qui est très belle par ailleurs.
Mais c'est-à-dire que je chante avec une voix de crooner pour faire passer, je sens de plus en plus la haine, la peur, la mort. Je vous embrouille en réalité. Je mets du charme pour dire ce que j'ai envie de dire. Mais non, c'est pas de la nostalgie, c'est du métier. Ça s'appelle, c'est mon métier, ça.
Ça veut dire que vous n'êtes pas prêt d'arrêter de voyager, Bernard
Lavilliers? Ah non, 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 sûrement pas. Tant que j'ai de la voix, je pense que tant que j'intéresse du public, et tant que je peux encore, je suis pas sur un fauteuil roulant, je crois que ça me plaira. Peut-être pas forcément d'énormes tournées, peut-être de jouer qu'en symphonique, d'autres fois avec des musiciens de jazz, enfin, j'ai déjà fait. Hein. Mais c'est beaucoup plus passionnant que passer son temps à tourner avec le même groupe, hein, je vous assure. Mais je ferai des breaks pour aller voir un peu comment ça marche ailleurs, quoi.
Merci Bernard Lavilliers. Votre dernier album s'intitule Sous un soleil énorme. Vous êtes actuellement en tournée. Je donne les prochaines dates. 19 février à Courbevoie, 24 à Bruxelles, 25 à Liège, 26 à Mons. Puis viendront Marseille, Nice, Chalon, Besançon, Mâcon, Clermont-Ferrand et bien d'autres. On va mettre toutes les dates jusqu'à décembre 2022 sur la page de l'émission. Un grand merci à vous Bernard Lavilliers.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente pour nous laisser un message. Vous avez le choix, franceinter.fr, Facebook ou notre nouvelle page Instagram. Et pour réécouter cette émission et les précédents épisodes en podcast, il y a l'appli Radio France. À samedi prochain pour de nouvelles aventures.